Bonjour et bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Patisse, pâtissière et de plus en plus confiseuse et chocolatière. Oui. Et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne des conseils, des astuces, peut-être même des stratégies. Enfin, en tout cas, je vous décrypte les ingrédients que l'on peut utiliser en pâtisserie ou en cuisine et ainsi vous permettre de les réussir, vos pâtisseries ou vos plats, hein. Ou peut-être même de réviser votre CAP si vous êtes en train de le préparer en ce moment même. En tout cas, aujourd'hui, c'est parti pour l'épisode du jour. On va se mettre à l'aise en se prenant un petit thé, un café, peut-être même son verre de vin si ça va être l'heure de passer à table. Enfin bref, mets-toi bien à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Mais en attendant, je vais remercier Aurélie qui m'a envoyé encore un message pour me remercier sur les épisodes de podcast. Et franchement, eh bien merci, c'est ce genre de message qui me réconforte et qui me donne encore plus envie de vous produire ces épisodes. Parce que je sais, vous êtes plus ou moins nombreux à m'écouter, plus ou moins nombreux à partager. D'ailleurs, je vous invite vraiment à partager le plus possible, à en parler autour de vous pour que du coup, ça puisse donner des conseils aux autres parce que ça peut peut-être vous aider. Et puis, en tout cas, si ça ne vous suffit pas, eh bien, sachez que depuis cette semaine, je collabore avec Watson Cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est Watson Cuisine? Eh bien, c'est une plateforme de cours en ligne à des prix défiant toute concurrence. Vous pouvez prendre un abonnement comme un abonnement à votre salle de sport, participer au nombre de lives que vous souhaitez. Oui, avec l'abonnement, vous participez à tous les lives que vous souhaitez. Donc, dont certains, c'est moi qui vous coach. Je ne fais pas tous les cours. Et en tout cas, si vous n'avez pas pu tout suivre, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas suivi, eh bien vous aurez un replay. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller voir ce qui se passe sur watsoncuisine.com. Je vous mettrai le lien dans les descriptions de l'épisode. Vous trouverez aussi des informations sur mon site kikipatisse.fr. Et en attendant, eh bien c'est parti, on va se mettre à l'aise pour notre épisode du jour. Et aujourd'hui, on parle de quoi ? Alors, on parle d'un sujet, on parle pas d'un ingrédient en particulier. Aujourd'hui, on va parler de comment justement découvrir l'ingrédient peut-être particulier qui se trouve dans notre plat, dans notre dessert. Oui, je te parle de l'analyse sensorielle. Qu'est-ce que c'est ? L'analyse sensorielle, eh bien, c'est un ensemble de méthodes permettant de mesurer les perceptions sensorielles. Ouais, ça fait répétition. Vue, oui, odorat, goût et toucher. Et là, on peut parler aussi de sensométrie ou de métrologie sensorielle. Donc, l'analyse sensorielle est fondée sur trois niveaux métrologiques, percevoir, identifier, discerner. Et à l'aide des descripteurs, elle attache à avoir un point de vue objectif sur le ressenti. Oui, on ne va pas se contenter de dire j'aime pas, j'achèterai pas. Donc, le principal problème de ces méthodes est que le sens ne se limite pas à une réaction physiologique, à un stimulus, mais prennent en compte l'expérience de la personne, son vécu, son état d'esprit, donc je parle de l'humeur, son environnement, l'ambiance. Ben oui, peut-être que tu ne vas pas déguster la même tarte au chocolat, confortablement peut-être installée dans ton canapé, que si tu es en train de la manger dans le métro. On est d'accord que l'ambiance ne va pas être la même. Donc l'appréciation des desserts n'est pas seulement une affaire de goût, mais c'est aussi une affaire de vue et de toucher. Et oui, après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. En fait, tous les sens sont mobilisés face à une pâtisserie. Donc, ça peut être aussi un plat. Hein. Mais là, comme moi, je suis pâtissière, je te parle de pâtisserie. Le pâtissier, avec sa culture artistique, s'assure de les solliciter au mieux. Donc, évoquer les sensations que procure un aliment, c'est décrire les propriétés organoleptiques et qui font appel à nos cinq sens. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vue, l'ouïe, l'odeur, le toucher et le goût. Ces propriétés sont évoquées de manière descriptive, comme sucré, salé, onctueux, croquant. Le vocabulaire employé va être neutre. On évoque des mots qui sont définis comme des mots descripteurs. Il n'est pas question de jugement, d'appréciation résumée par, comme je disais, j'aime, j'aime pas. Hein? Et donc, pour capter toutes ces saveurs, eh bien nous, l'homme, la femme, l'homme en général, nous disposons de 7 à 8 000 papilles gustatives. Ouais, c'est énorme. Sur la zone de la langue. Alors, elle n'est pas grande, hein. Alors moi qui suis bavarde, t'imagines. Donc, sur la langue, et elles sont spécialisées par zone. Chaque bouche. enregistrement. Donc, du coup, on en était à chaque bourgeon du goût analyse la saveur et la température de l'aliment. Donc, vous avez les saveurs amères, acides, sucrées et salées dans votre bouche. Je vous mettrai un petit dessin sur les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez voir où sont captés les récepteurs de la cavité buccale, la langue, les saveurs, tout ça. Et donc, comme ça, vous pourrez mieux vous faire une idée. Donc, une fois analysées, les informations recueillies par nos petites papilles gustatives, elles sont envoyées à notre cerveau très très rapidement. Hein. On sait que ça va très rapide. Et dans ces papilles, donc, vous avez un bourgeon de goût, un récepteur de saveur, un capteur thermique qui vous dira bien sûr si c'est chaud, si c'est froid, si c'est bon, si c'est pas bon. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Hein, on est d'accord. Dès qu'on mange quelque chose, on se dit voilà, hein, c'est nos premières réactions parfois. Donc, les odeurs captées parallèlement aux sensations du goût sont aussi envoyées au cerveau par des fibres nerveuses olfactives situées dans la cavité nasale. Donc, vous comprendrez donc que lorsqu'on a un rhume, c'est beaucoup plus compliqué de manger et d'apprécier un bon dessert. Et là, en ce moment, même si moi, j'ai pas de rhume, mais certains en ont. En plus, on arrive dans la période où il va y avoir comment ça s'appelle? Vous savez, les allergies là, au pollen. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ont attrapé la Covid, hein, parce qu'on ne dit plus le Covid, on dit la Covid. Eh bien, en fait, certains ont perdu le goût et l'odorat. Eh bien, je ne sais pas comment ils font, mais franchement, je suis de tout cœur avec vous. Je l'ai déjà vécu, cette situation, pendant 15 jours. Et franchement, c'est vraiment pas cool. Enfin bon, bref. Donc, les stimulations provoquées par un aliment vont toucher d'abord dans l'ordre la vue, ben oui, c'est la première chose qu'on voit, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ben oui, on finit par le mettre à la bouche. Il faut donc savoir distinguer les saveurs qui s'expriment en bouche avec les papilles gustatives et on évoque la sapidité comme un synonyme de saveur. Il faut reconnaître les arômes qui se révèlent en premier lieu donc par le nez, donc la voie nasale, et puis par la bouche, la voie rétronasale. Donc la flaveur désigne l'ensemble de ces sensations perçues en bouche, le goût, l'odeur et la température. Chaque sensation doit être décrite par des descripteurs de mots neutres. Hein, si vous êtes amené à peut-être un jour goûter, faire partie d'un panel. Donc, exprimant donc ces catégories, les sensations visuelles vont se diviser en trois catégories. Exemple montrant la complexité des sens. Par exemple, vous voyez, si on colore des yaourts avec un colorant sans goût, une personne goûtant un yaourt coloré en jaune pourra avoir l'impression de manger un yaourt peut-être à la vanille ou au citron. Alors que s'il est coloré en rose, elle pourra avoir l'impression de manger un yaourt à la framboise. Alors que si ça se trouve, il n'en est rien. C'est juste que parfois, la perception de la vue nous fait avoir des avis et avoir l'impression d'avoir des goûts différents en bouche. Donc, cette première catégorie va être d'abord, donc, du coup, on va dire la perception visuelle du dessert. Les mots descripteurs pourraient être c'est chargé, c'est compact, c'est aérien. Ce sont ces mots que l'on aura directement peut-être comme sensation qui vont venir à notre cerveau. Hein, ensuite, la deuxième catégorie, ça va être la couleur. Elle va avoir une influence importante sur nos sensations olfactives, comme je disais juste avant par rapport à la couleur d'un yaourt. Et gustativement, il est difficile de déguster un produit, par exemple, dont la couleur déplaît ou par exemple, si vous avez un gâteau qui est vert mais qui aurait un goût de chocolat, je dis une bêtise, ça va être très bizarre, on est d'accord. Et la troisième catégorie sera la forme du dessert. Elle met en valeur donc vos desserts, vos plats et les mots descripteurs vont être eh bien, il est rond, il est carré, il est oblong, il est triangulaire, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, les sensations, ensuite, eh bien, auditives, elles sont plus difficiles à exploiter parce que, par exemple, il va y avoir peut-être quand même le bruit de la pâte feuilletée qui crisse, celui du rhum qui flambe quand on vous amène une omelette norvégienne ou ce chocolat qui croustille parce que vous avez des billes de riz soufflé dedans, mais ça participe quand même malgré tout à l'expérience sensorielle. Les mots pour décrire cette sensation auditive seront par exemple c'est craquant, c'est croustillant, voilà. Hein, donc pour finir un petit peu vite fait, enfin vite fait, sur ce sujet de ces catégories, eh bien tout ça, ça peut vous amener à faire un métier. Eh bien oui, il y a plein de métiers, mais ça peut vous amener à faire un métier qui sera basé sur les capacités d'analyse sensorielle d'un professionnel. Par exemple, pour le goût, vous pouvez être super goûteur, goûteur, œnologue, sommelier, parce que vous allez apprécier, vous allez analyser, hein. Et puis pour le toucher, par exemple, le contact physique avec un aliment nous apporte deux informations, deux types d'informations. Donc l'information mécanique, le contact de la peau, des doigts va nous renseigner sur la consistance du produit. L'action mécanique de la bouche nous délivre des informations plus précises. Par exemple, pour le goûteur, si c'est onctueux, croustillant, fondant, moelleux, gluant. Pour certains fromages, par exemple. Bon, après il y a d'autres trucs qui sont gluants. Hein. J'ai pas envie de. Ouais, enfin, ça va être par exemple un truc gras. Enfin, voilà. Et après, on a des informations thermiques par le contact. On peut juger de la température du produit. Certains plats s'appuient sur des contrastes thermiques pour assurer de leur réussite. Ensuite, on va avoir l'ouïe, parce que même si l'oreille participe à l'analyse sensorielle, elle peut révéler elle peut révéler des choses importantes pour certains produits, comme ben, je disais de la pâte, mais un pain qui croustille, un biscuit craquant, ça peut déplaire à l'oreille ou lors de la mastication, parce que ça fait trop de bruit, du coup on ne s'entend plus parler, on n'entend plus ce qui se passe à la télé. Voilà, après, ben, par la vue. L'observation d'un aliment, elle va nous renseigner sur sa forme. Donc tout à l'heure, on parlait de carré, rond. Mais par exemple, un fruit va être plus ou moins gros, avoir une forme plus ou moins régulière et équilibrée. Par exemple, pour la couleur, les saumons fumés n'ont pas la même couleur qu'un jambon gris ne plaît pas toujours. On les préfère par exemple roses, alors que bien souvent, ils ont des colorants dedans. Toujours les vins, ils transmettent une partie de leur méthode d'élaboration à travers leur couleur. Si il est rouge intense, il est plus rosé, il est blanc, vous voyez, ce genre de choses. Et ensuite, il y a l'état. Eh bien, par son état, par exemple, nous, chez nous, la peau terne, légèrement flétrie d'un fruit, enfin chez nous. Oui, on peut se comparer à un fruit, hein. On pourrait nous renseigner sur son état de fraîcheur. Bah oui, nous aussi, si on n'est pas très fraîche et qu'on n'a pas bu suffisamment, on a une peau qui est terne, pas belle. Eh bien là, c'est pareil sur un fruit, en le vaporisant de l'eau ou sur un légume, eh bien, il va avoir un aspect plus brillant, nettement plus agréable. Les vins vont paraître plus limpides, ou troubles, brillants, ternes. D'ailleurs, en parlant de fruits ou de légumes, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, parfois, ça vous arrive, vous achetez une salade et en fait, elle devient toute moche, toute flétrie. Eh bien, un conseil, avant de la jeter, mettez-la dans une grande, grande, grande bassine d'eau et arrosez-la d'eau. Faites-la tremper 1, 2 heures et vous allez voir, elle va reprendre sa forme originelle. Elle va retrouver de l'éclat, elle va retrouver du croquant. Parce que les salades, c'est quand même un peu croquant. Donc voilà. Et puis par la consistance, et eh bien du coup, par exemple, un vin doux naturel montre une densité plus épaisse qu'un vin blanc. Voilà, on va avoir des petites notes, hein, de toute façon, voilà. Et donc, je continue par l'odorat, le compositeur de parfum, par exemple, pour son nez, bah oui, il a besoin de son nez, celui qui compose les parfums. On appelle ça être un nez, être né, un nez. Voilà, et bien les sensations olfactives vont déjà s'exprimer à travers les arômes, elles sont perçues par le nez et en bouche. Bon, alors vous n'allez pas le bouffer votre parfum, hein. Et elles sont déterminantes dans l'expérience gustative parce qu'on est bien d'accord que personne ne mange avec plaisir un aliment ou un plat qui ne sent pas bon déjà. Et les mots descripteurs que vous pourriez utiliser à ce moment-là, quand vous allez sentir ce plat ou ce dessert, seraient peut-être des notes de boisé, brioché, doux, mentholé, puissant ou rance. Voilà. Donc, et puis, du coup, ensuite à ça, vous allez associer vos sensations tactiles, hein, qui vont d'abord par la texture, on va s'apprécier à la fois hors bouche et en bouche, une fois que vous avez senti, hein, comme par exemple si c'est épais, feuilleté, moelleux, velouté. Et puis ensuite, eh bien, ça va être la température, hein, parce que ça va influer sur la perception du produit, et vous allez décrire un dessert ou un plat comme brûlant, ambiant, frais, glacé. Donc un certain nombre d'outils quand même ont été inventés pour faciliter l'analyse sensorielle. Enfin, si vous êtes expert, si vous avez tout un tas de choses. Et par exemple, les outils de manipulation. Donc vous avez des verres à dégustation pour l'analyse sensorielle des vins. Oui, quand vous allez dans un cours d'œnologie, eh bien voilà, vous avez la même chose pour de l'huile d'olive. Et donc, vous avez des référentiels sensoriels. Alors, je vous ai mis, il y en a un référentiel visuel, un référentiel olfactif, un référentiel tactile. Donc, je vous ai mis les noms de ces personnes sur les notes de l'épisode. Et donc, voilà. Et l'analyse sensorielle, eh bien, elle peut se pratiquer avec un panel. Donc, un panel, ce sont un groupe de sujets, de dégustateurs, volontaires, représentatifs d'une population ciblée. Et ces sujets pourront être naïf ou profane, c'est-à-dire sans expérience, sans connaissance particulière, pour soit suivre des séances d'entraînement au cours desquelles on leur apprendra à mettre des mots, des sensations, à rechercher des sensations d'ailleurs auxquelles on ne se prête ordinairement pas attention. Par exemple, lorsque l'on mange une pomme, outre le goût, la couleur, la brillance, le bruit, lorsqu'on croque, la résistance ou la dent, etc. Vous avez des cours comme ça qui peuvent vous permettre d'apprendre à déguster différemment. Par exemple, Victoire Finaz, la chocologue, vous apprend à déguster de manière différente des chocolats et elle fait des cours. D'ailleurs, elle fait partie avec moi de l'équipe de Watson Cuisine. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Watson Cuisine. Vous verrez, c'est hyper intéressant les cours que vous allez pouvoir suivre. Donc, voilà. Donc, les sensations. Revenons à nos petites sensations. Et là, on va parler de nos sensations gustatives qui sont quand même plus importantes car ce sont elles qui synthétisent le plaisir de la mise en bouche après les autres perceptions. Les molécules sapides et la saveur se mêlent à la salive et réagissent avec les papilles gustatives. On évoque alors des saveurs principales de sucré, salé, amer. Puis ensuite, on va parler de l'umami. Ça veut dire délicieux en japonais qui correspond à la saveur du glutamate monosodique régulièrement utilisé dans cette cuisine asiatique. Et ensuite, on va associer peut-être des saveurs complémentaires comme acre, alcoolisé, astringent, chimique ou piquant. Donc, je reviens juste sur ces dernières. Donc, l'umami, c'est une saveur identifiée par un professeur japonais. Donc, le glutamate naturellement présent dans certains produits comme le parmesan, le roquefort, le kombu, des sauces fermentées de poisson, la sauce soja, certains légumes comme le chou et le shiitake. Donc, ça, c'est un champignon. Et donc, c'est un acide aminé qui flatte le palais et soutient la saveur. C'est un exhausteur de goût. Tant que cela reste naturel, aucun souci. Par contre, la molécule de synthèse E620 ou E621, l'acide glutamique, glutamate monosodique, est considéré comme un neurotoxique. Et donc, c'est à éviter à tout prix. Donc, faites bien attention quand vous achetez des produits en supermarché. Et ensuite, je vous ai parlé des autres d'autres saveurs difficilement classables comme l'astringente, sensation complexe résultant de la contraction de la surface des muqueuses de notre bouche et non de la langue, provoquée par des tanins, donc des polyphénols, exemple un vin rouge trop jeune, et donc il faut faire attention à certains acides provoquant aussi de l'astringence. Et puis un goût, par exemple, métallique, hein, une flaveur rappelant une solution de sulfate ferreux, un clou rouillé dans l'eau, du papier d'aluminium, voyez, pressé entre les dents. Bon, moi ça m'arrive pas souvent, hein, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, donc tout ça va nous permettre, par exemple, lors de la création d'un nouveau produit, de réaliser des tests organoleptiques pour préciser les propriétés de ce nouveau dessert, de ce nouveau plat, par exemple de ma nouvelle barre énergétique que j'ai créée avec Happy Run, que vous pouvez trouver sur leur e-shop. Eh bien, voilà, il va y avoir différents types de tests discriminatifs. Ils vont avoir pour but de détecter la présence ou l'absence de différences perceptibles entre deux produits, deux ingrédients. Et parmi ces tests, par exemple, je vais vous en citer trois. Le test triangulaire qui consiste à proposer aux panélistes un échantillon de deux, dont il va y avoir trois échantillons, dont deux identiques, et le panéliste doit déterminer l'échantillon différent des deux autres. Ensuite, vous avez un test de comparaison par pair, donc comparaison de plusieurs produits par deux, et un test duo-trio. On indique aux panélistes un échantillon de référence et il compare deux autres échantillons pour identifier celui qui est identique. Donc voilà, donc ces tests descriptifs, c'est une méthode cette méthode va permettre de quantifier l'intensité des caractéristiques perçues des produits pour permettre aussi de voir ce qui va être le mieux et on va définir ensuite eh bien, toutes ces flaveurs, toutes ces saveurs qu'on veut et il va y avoir différents profils. Donc vous avez des profils descriptifs quantitatifs. En ce qui concerne les tests discriminatifs ou descriptifs, la subjectivité, donc passé culturel, expérience personnelle, ce genre de choses est contrôlée autant que possible dans le cas de l'analyse de l'eau, la méthode de référence de Flavour Profile Analysis. Donc voilà, donc c'est, vous avez différentes méthodes. Alors je vous avoue que moi je n'ai pas fait toutes ces méthodes-là pour établir ma nouvelle barre protéinée qui est en vente chez Happy Run, mais en tout cas on a fait des tests, on a goûté et voilà. Donc, et après vous avez le test hédonique. À l'inverse des méthodes à l'inverse de la méthode précédente, et par définition, l'approche hédonique est subjective car il est demandé au consommateur d'évaluer le degré de plaisir ou de déplaisir procuré par un produit donné. Donc là, nous, on a un petit peu fait ce test hédonique, on va dire, la dernière fois quand on a testé quelques barres. Donc voilà, on a senti tout de suite qu'il y en avait une barre qui ressortait plus que les autres. Voilà, donc ça, on peut dire que c'était un test hédonique. Et ensuite, vous avez les tests holistiques. Alors, c'est un autre type de test, qui demande au juge de considérer chaque produit dans son ensemble, à la différence des méthodes descriptives usuelles qui analysent chaque produit, par descripteur, eh bien là, l'intérêt majeur de ces tests est de donner des indications sur l'importance relative des critères utilisés dans la description des produits. Donc, les principales méthodes et holistiques sont la catégorisation, donc dans laquelle on demande au juge de faire des groupes de produits. Donc, vous avez par exemple le napping, dans lequel on demande de positionner le produit sur un plan, et le napping catégorisé qui combine les deux approches précédentes. Donc, par exemple, en organisation pratique. Donc, les produits sont soumis au groupe, les panélistes ayant pour consigne d'éviter les conduites saturant l'essence. Avant des séances, par exemple, on va vous demander de ne pas fumer, de ne pas prendre de café, de manger de chewing-gum dans l'air qui précède le test, parce que vous allez avoir un goût qui reste en bouche. Puis ensuite, on va analyser ces résultats. Le résultat va prendre, son, prendra son sens dans la composition, dans la compilation, dans la synthèse des avis. Et puis, on considère qu'à peu près, on prend un panel de 80 personnes. Alors nous, je vous avoue, avec Happy Run, pour notre bar et pour nos pâtes de fruits, nous avons un panel d'ambassadeurs d'une douzaine de personnes qui sont des sportifs, puisque les bars sont destinés aux sportifs, mais pas que. Si on est très gourmand comme moi, c'est parfait, puisque ça fait un peu effet coupe-faim, puisque c'est très protéiné. Donc voilà. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cas et d'analyses de produits, que ce soit médicamenteux ou de dessert ou ce genre de choses, de nouveaux produits, on s'appuie sur le fait qu'on commence à commercialiser quand 80% de la population est satisfaite ou que le résultat obtenu obtient 80%. Donc ça, c'est un domaine, c'est dans l'agroalimentaire, mais ça marche aussi dans le domaine du médicament, par exemple pour un collier anti-puce. S'il est efficace à 80%, on peut envisager de le mettre sur le marché. Voilà, donc ces tests permettent de réaliser la carte d'identité du produit en utilisant des descripteurs pour chacun des sens. Donc là, bon, je vous ai parlé du collier anti-puce, mais on n'est pas dans le même cas. Mais par exemple, pour les barres, effectivement. Voilà, et avec ces outils, ben, il va être plus facile de décrire le produit, de faire sa mise au point et de réaliser sa communication. Hein, s'il y a besoin, on va corriger le produit. Dans le cas d'une analyse, dans ce cas-là, s'il y a des petits trucs à améliorer, on va chercher simplement peut-être à améliorer le produit au travers de corrections peut-être gustatives, oui, ou esthétiques. Par exemple, peut-être que c'est un peu trop gras, on va diminuer sur un petit, peut-être sur la dose de raisin, ou on va peut-être diminuer sur la dose de miel, vous voyez ce genre de choses. Donc, on va d'abord procéder à une analyse, puis à la recherche de points critiques. Le mieux est de pouvoir apporter des corrections immédiates, afin de vérifier les corrections. Par exemple, sur une salade de fruits trop sucrée ou pas assez, ben, est-ce qu'elle manque de couleur? Voilà, par exemple, sur des accords mets et vins, l'analyse sensorielle des plats et des vins nous conduit à mieux connaître les produits que nous vendons. Parce que c'est toujours important de savoir quel vin vous allez manger avec quel type de plat ou quel type de dessert ou quel type de chocolat. C'est toujours intéressant parce que tous les vins ne vont pas avec tous les chocolats, ce genre de choses. Et ainsi, on peut tous mieux les accorder. Et cet entremets au chocolat, eh bien, par exemple, sera-t-il plus en accord avec ce mori ou avec ce muscat? Donc voilà, on va analyser, comparer. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à développer peut-être même sa propre méthode. Il n'y a pas de méthode sensorielle ou de consommateur miracle. Il faut pouvoir adapter aux objectifs, aux problématiques de l'étude. Tester un plat chaud, par exemple, représente d'autres défis que tester un produit froid. Par exemple, vous avez le budget aussi. Voilà. Il va falloir trouver les meilleurs compromis. Mais sachez que c'est toujours plus intéressant, plus valorisant d'avoir un produit qui vous plaît, parce que c'est toujours mieux. Et donc vous avez la méthode, cette méthode, eh bien en fait, c'est un vrai travail gratifiant que de développer à sa propre, que de développer sa propre demande, sa propre méthode pour savoir si c'est bon ou pas. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous a plu. Il est maintenant terminé. N'hésitez pas à le partager si vous avez appris des choses, si ça vous a intéressé. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Chocolat et Gourmandise. En attendant, n'oublie pas d'aller mettre un avis sur iTunes, Apple Podcast, sur l'application que tu utilises, de partager un max, de me taguer. Merci, ça me fera énormément plaisir parce que plus vous serez nombreux, mieux ce sera, plus je serai visible. Et donc en attendant, eh bien, je vous dis une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, une bonne fin de soirée, une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine!